Une histoire particulière. Hier, dans le premier épisode de notre histoire du week-end, nous étions en Islande en 1627. Nous faisions, grâce à Olivier Chomel et Julie Béressi, la connaissance de Gudridur Simonardóttir. Cette jeune femme de 29 ans vit avec un marin-pêcheur et son fils de 4 ans. La paix règne dans le village jusqu'à ce que des navires ottomans l'attaquent violemment. Capturée avec son fils, elle commence alors une vie d'esclave pendant près de 10 ans avec des centaines d'Islandaises et d'Islandais ravis à leur île. Pourtant, elle va réussir l'impossible.
Þú sem bítur bondans fé, bölvuð í þér augun sé, stattu nú sem stopn á tré, steina dauð á jörðinni.
Qu'est-ce que ça raconte, Torfit Ulinus?
C'est un poème déclamé par Hallgrímur Pétursson, le mari de Gudrid, qui était un grand poète, qui pouvait faire de la magie avec ses poèmes. Et on dit qu'un jour, il était déjà prêtre en train de dire la messe, donc pasteur dans une église protestante en Islande. Toutes les églises étaient luthériennes à cette époque-là, vers le milieu du XVIIe siècle. Et il a déjà son chasuble, prêt à dire la messe, mais il regarde par la fenêtre et il voit un renard en train de mordre un agneau. Et le poème dit « Toi qui mords les moutons des paysans, reste raide comme un arbre et tombe sur le sol, et que tes yeux soient maudits. » Et le renard est tombé raide mort sur le sol. Mais pour un pasteur, faire de la magie devant l'autel, c'était pas très bien. C'était même un sacrilège.
On se passionne pour les histoires islandaises. Cela tient sans doute à l'étrangeté et à la relative inhospitalité de cette île boréale. Ne pas confondre. Le prénommé Hallgrímur, dont il vient d'être question, est le second mari de Gudridur Simonardóttir. Il est inconnu de cette dernière durant sa longue détention à Alger, alors dans l'Empire ottoman. Elle ne le rencontrera qu'une fois libérée contre rançon, après 8 ans et demi d'esclavage qui ont bouleversé son existence. Pendant tout ce temps, au secret, elle n'aura eu aucune nouvelle de son époux légitime, un marin-pêcheur prénommé lui Eyjulfur, qui avait échappé par chance aux raids des corsaires ottomans. En résumé, Gudridur Simonardóttir et son fils Sölmundur, 4 ans, ont été capturés au début de l'été 1627, avec environ 400 de leurs compatriotes pour être esclaves dans la région d'Alger. Ce qu'en Islande on appelle le raid des Turcs a été mené en réalité par des corsaires originaires de tout le bassin méditerranéen et même de l'Europe du Nord. Par exemple, le capitaine du navire qui a convoyé Gudridur, son fils et leurs compagnons d'infortune jusqu'en Afrique du Nord s'exprimait en bas allemand. Gudridur Simonardóttir, l'Islandaise et les Ottomans. Second épisode. Le prix de la liberté. Olivier Chomel, Julie Béressi. Thorstein Helgason, on a la chance que cette histoire ait été écrite presque aussitôt qu'elle s'est déroulée. Par qui?
The first account was by an official person in the south coast.
Le premier témoignage est celui d'un officiel de la côte sud. Il avait autorité sur les îles Westman, mais il n'y était pas à ce moment-là.
And some Danish, the Danish merchant and the captain and some other people, they
un marchand danois et un capitaine qui avaient assisté à l'attaque avaient réussi à fuir les îles Westman en ramant jusqu'à la grande île. Ils ont rencontré cet officiel, Klaus Eyjulfsson. Celui-ci s'est donc rendu sur les îles Westman, a vu les corps, a interrogé les témoins sur ce qui s'était passé. Il a écrit une sorte de reportage journalistique presque immédiatement, dans le mois qui a suivi le raid.
And this was copied and copied and
ce rapport a été copié et recopié et diffusé.
One year after the raid, the pastor of the Westman Islands,
puis un an après le raid, le pasteur des îles Westman, Olaf Urelinson, est revenu. Les corsaires l'ont envoyé demander des rançons au roi pour acheter sa famille.
Þegar komið var til Algeirsborgar með alla fangana eftir mánaðalanga siglingu suður Atlantshaf.
Steinunn Jóhannes de Týr, romancier.
Of gamall til þess að duga sem þræll.
Ólafur était trop vieux pour qu'on en fasse un esclave utile. Il avait déjà 63 ans. Alors on l'a libéré. On lui a fourni une sorte de passeport et on l'a envoyé seul, on lui a fait traverser la Méditerranée et toute l'Europe pour aller trouver le roi Christian IV de Danemark et lui raconter ce qui s'était passé et obtenir de lui le prix de la rançon pour racheter le plus grand nombre de captifs.
Christian IV. Kongurinn Kristján IV hann hafði farið mjög illa út úr þátttöku sinni í 30 ára stríðinu.
Les finances de Christian IV après la fin de la guerre de 30 ans allaient mal. Et c'est pour cette raison que le pasteur Ólafur n'a rien obtenu de sa rencontre avec le roi.
Hann hélt því bara áfram heim til Vestmannaeyja.
Il a alors continué sa route jusqu'en Islande et les îles Westman, où il a rédigé le récit de son long périple pour rejoindre l'Islande, récit qu'il a intitulé « Le récit du voyage du pasteur Ólafur Egilsson ». Et ce livre est une des sources les plus importantes sur le raid des Turcs.
À ce moment-là, l'Islande est sous tutelle danoise. Et on a l'impression que le roi du Danemark, Christian IV, ne se soucie pas tellement du sort de ces sujets islandais dont on parle.
Je pense que ce n'est pas tout à fait exact. Parce qu'à ce moment-là, au moment du raid en 1627, Christian IV et son armée avaient perdu une guerre et étaient en fuite vers Copenhague. Ils avaient perdu la guerre et une grande partie du Danemark face à l'armée impériale catholique. Ils étaient absolument à sec. Les coffres du roi étaient vides. La situation était très mauvaise. Quelques années plus tard, la situation s'est un peu améliorée. Les caisses du royaume ont été renflouées et une collecte a été organisée pour ramasser assez d'argent pour payer les rançons des Islandais et des autres captifs. Le roi avait l'ambition de servir ses sujets. Sa réputation était en jeu. Christian IV se considérait comme un gardien du protestantisme. Ses sujets étaient en danger existentiel et religieux en Afrique du Nord. Il y a beaucoup de lettres du roi qui le montrent, qui encouragent la collecte de fonds pour les rançons. Je ne blâmerai pas tant que ça la monarchie danoise et l'Église. L'Église était très active dans tout cela. Bien sûr, ils ont tardé à réagir. Et pour les captifs, c'était terrible de devoir attendre et attendre. Mais le roi ne les avait pas oubliés.
Alors, on a gardé la transcription d'une lettre que Guðríður a pu écrire à son mari pour lui demander de l'aide.
Torvitulinius, médiéviste.
Mais il manque la seconde moitié de la lettre, il y a juste une part de la lettre. Alors, elle est très intéressante cette lettre, hein, parce que c'est la seule lettre d'une femme à être parvenue d'Alger jusqu'en Islande. Et c'est une lettre très, comment dire,
cérémonieuse, je dirais.
Exactement, elle est très cérémonieuse, elle est très religieuse, elle remercie son mari, elle lui parle comme si c'était un peu son seigneur, maître et seigneur, elle insiste sur le fait qu'il soit si bon avec elle, elle demande que Dieu le garde, Mais elle commence à devenir un peu plus personnelle en parlant des soucis qu'elle se fait pour leur fils. Mais là, il manque une page. Donc, on ne sait pas ce qu'elle allait dire.
Comme si l'histoire avait voulu ménager le suspense.
Absolument.
Que la bénédiction de Dieu notre Père, la grâce et la rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ, la consolation et la lumière de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous, sur vous et en vous, pour les siècles des siècles. Mon riche et vertueux maître, Eyjolfur Solmundsson. Étant votre épouse légitime, je tiens à louer votre nom pour que Dieu vous garde en sa sainte protection chaque jour de votre vie, car nous savons que de grands périls menacent. Que le Seigneur nous équipe de vaillance, car nous savons ce que nous écrivons. Or, voici ce qu'il y a à dire de ma misérable existence. En premier lieu, je suis ici à la grâce de Dieu et de sa bienveillance, ici en Barbarie et en une cité turque qui se nomme Areyel, chez un Turc qui nous a achetés dès notre arrivée, moi et mon pauvre enfant. Ce qui, à la fois, m'a affligée, mais aussi réjouie dans mon malheur. Et ployant sous cette épreuve envoyée par le Seigneur, cette lourde croix que je porte, je m'attriste et m'afflige chaque jour de savoir mon fils plongé en cette détresse et en proie aux périls engendrés par nos péchés. Mais je rends grâce à Dieu, et d'une certaine manière. La suite de la lettre est manquante.
Steinon Johannes Dottir, comment espère-t-elle d'abord avoir le matériel pour rédiger sa lettre, et puis ensuite la faire parvenir en Islande? Parce qu'évidemment, il ne s'agit pas de mettre un timbre dans le coin d'une enveloppe.
Ça var rosalegt stórmál að koma bréfunum á leiðarenda. Og þau fóru áreiðanlega saman.
En captivité, il était extrêmement difficile d'envoyer des lettres ou des messages au pays. Mais les captifs ont rapidement compris que ça pouvait être utile d'envoyer plusieurs lettres en même temps, en les confiant à une personne qui partait vers le nord. La lettre de Gudrídur est arrivée au plus mauvais moment pour son mari. Selon la loi en vigueur au Danemark, et donc en Islande, si un des conjoints disparaissait et qu'on n'en avait plus de nouvelles pendant 7 ans, le conjoint délaissé pouvait se remarier. Et il se trouve qu'il s'était justement écoulé 7 ans quand la lettre est arrivée en Islande. Et son mari, qui s'était remarié, se trouvait alors dans une situation qui relevait de la bigamie. Et c'était une infraction très grave.
Et alors, la lettre, vous dites que vous avez eu beaucoup de peine à la traduire.
Oui.
Parce qu'elle est rédigée dans un Islandais bizarre, Eric Bury.
Oui, c'est-à-dire un Islandais, alors on ne peut pas dire archaïque, parce que l'Islandais, de toute façon, est une langue, justement, archaïque. C'est son trait principal.
Mais qui a très peu changé depuis 10 siècles.
Voilà. Mais là, elle est rédigée dans un Islandais extrêmement obséquieux, caractérisé par un grand nombre de formules solennelles alambiquées. Et en fait, cette lettre qui doit faire une page et demie, enfin, ce qu'il en reste en tout cas, contient 3 informations. Je suis vivante. Notre fils est vivant. Je suis réduite en esclavage, hein, grosso modo. Et il y a une 4e information à côté, c'est je ne peux pas tout te raconter. Et il vaut mieux qu'elle ne raconte pas tout, effectivement, puisque l'esclavage implique aussi de l'esclavage sexuel.
Gudrídur Simonard de Tyr, je ne dirais pas qu'elle accepte son sort, mais il y a quand même une forme de mortification. Son parcours a quelque chose d'un peu christique, non ?
Oui, d'une certaine manière, oui, bien sûr. Hein. Elle prend tout ça avec, alors peut-être pas tout à fait philosophie, mais avec humilité. Ce sont des épreuves que lui envoie le Seigneur, tout simplement. Ça, c'est peut-être la mentalité islandaise, mais c'est la mentalité chrétienne aussi, tout simplement. le Seigneur, enfin Dieu, nous envoie un certain nombre d'épreuves que nous devons traverser et on en sort plus fort. Alors évidemment, c'est une vaste imbécilité que de dire qu'on sort plus fort de certaines épreuves, parce qu'il y a des épreuves qui vous tuent. Mais là, bon, effectivement, elles s'en tirent, entre guillemets. Cela dit, elles s'en tirent en laissant quand même son fils en Algérie, puisque son fils s'est totalement assimilé à la société dans laquelle il vit, quoi.
À commencer par une conversion à l'islam.
Oui, une conversion un peu contrainte et forcée. Le jour, par exemple, où elle se rend compte qu'il a été circoncis, elle est absolument horrifiée. Tout simplement parce que, dans le contexte de l'époque, se convertir à une autre religion que la religion protestante, ça revenait à assassiner son âme, quoi, à perdre son âme.
Guillaume Calafat, on se pose des questions sur le mécanisme du tri qui est opéré parmi les captifs qu'on va racheter, qu'on va laisser là. Il y a un critère tout de même qui semble indiscutable, c'est que, en tout cas du point de vue du royaume du Danemark, on ne rachète pas celles et ceux qui se sont convertis à l'islam.
Et oui, là c'est ceux qu'on appelle les renégats qui ont apostasié et qui ont, en prenant cette décision, couper leur lien avec leur communauté d'origine, leur communauté religieuse et leur communauté d'appartenance. Et donc la conversion est le signe généralement d'un horizon bouché pour le captif. Il sait que son rachat va être difficile.
Quant aux captifs eux-mêmes, ils n'ont aucune prise sur leur destin.
Alors, ils peuvent à nouveau écrire des lettres, essayer de mobiliser leur communauté d'origine pour essayer de les racheter. Il faut qu'ils négocient avec l'intermédiaire, il faut qu'ils aillent voir les consuls qui sont sur place pour faire parvenir des lettres, essayer de mobiliser leur communauté.
Tout ça plus ou moins clandestinement.
Alors, les maîtres de captifs avaient plutôt intérêt à ce que ces captifs-là informent leur communauté d'origine de leur infortune, parce que s'ils avaient été capables de les racheter, c'était potentiellement lucratif. Et les maîtres fixaient les prix ensuite pour voir si le rapport entre force de travail et prix de la rançon était en leur faveur. Donc, les maîtres ne cessaient d'estimer cela. Donc, un captif un peu fatigué, mieux vaut peut-être qu'il soit rançonné, par exemple.
Steinen, Johannes Dottir, de nombreux captifs islandais en Afrique du Nord sont parvenus à envoyer du courrier, un petit peu au petit bonheur, la chance. Mais certains appels ont été entendus, sont parvenus à destination. Et puis des fonds ont été levés, qu'on a confiés à un négociateur, qui a pu ainsi racheter la liberté, affranchir une petite partie de la population détenue en Afrique du Nord. Comment s'est fait le tri pour la libération des esclaves?
Það kom í ljós þegar að árin liðu að kongurinn í Kaupmannahöfn Kristján IV hann hafði ekki alveg.
Même si Olafur Egilsson, le premier négociateur, n'avait pas eu gain de cause quand il a rencontré le roi Christian IV, 8 ou 9 ans plus tard, la situation financière du royaume danois s'était améliorée.
Fjárhagur í konungsríkinu aðeins farin að batna eftir ófærarnar í 30-stríðinu og kongurinn hann búinn að safna.
Et c'est là que le roi Christian IV a trouvé un diplomate qu'il a envoyé en Algérie, un diplomate hollandais nommé Willem Kieft. Il lui a confié cette mission et Kieft est parti en Algérie avec une grosse somme d'argent pour racheter non seulement des captifs islandais, mais aussi des marins norvégiens et danois qui étaient également captifs.
Dans le cas qui nous préoccupe, Guillaume Calafat, le négociateur hollandais Willem Kieft débarque à Alger en 1636 avec une cassette contenant une énorme fortune. Comment est-ce qu'on protège un personnage comme ça et comment fait-il pour aller de l'un, de l'une à l'autre et négocier?
Alors, la Hollande avait déjà des accords avec la province d'Alger. En 1619, les Hollandais nouent un traité de paix avec la province d'Alger.
Mais Kieft, il est missionné par le roi du Danemark.
Bien sûr, mais ça, les Algérois, ce qui les intéresse, c'est d'abord de voir quelqu'un qui est protégé par le consul de Hollande. Et ce sont ces liens qui permettent aussi le rachat. Il y a une protection qui est aussi liée tout simplement au fait que si l'opération se passe bien, elle est lucrative pour les Algérois. Donc ils ont tout intérêt aussi que, pour les prochains captifs, de même, quelqu'un d'autre vienne avec une caisse pleine d'argent. Si on saisit ses biens, etc., et que ça se passe mal, certes, on fait un bon coup sur le moment, mais les répercussions peuvent être très lourdes sur un commerce des captifs qui est omniprésent. Et donc, la crédibilité des acteurs, elle est des deux côtés. On a besoin que ça se passe bien, qu'une opération se passe bien. Et il faut aussi penser que les Algérois eux-mêmes avaient des Algérois à racheter, des captifs à racheter. Sur les bagnes de Malte, de Livourne, certains ramaient dans les chiourmes à fond de cale, dans les galères du roi de France, d'autres étaient en Espagne. Donc, ces opérations de rachat étaient à chaque fois des moments de suspension du conflit. La normalité était plutôt de protéger ces intermédiaires qui faisaient plus que du commerce de captifs, qui négociaient aussi des produits, des marchandises et qui rentraient aussi chez eux avec un certain nombre de tâches à accomplir bien souvent pour les élites d'Alger, notamment qui leur commissionnaient un certain nombre d'activités à faire, de personnes à racheter, etc.
En tout cas, donc, là, nous sommes en 1636 environ, et Gudrydur Simonar de Tyr fait partie de quelques dizaines de captifs qu'on a élargis, affranchis. Le voyage retour est un périple assez long qui passe par les Baléares, Marseille, Narbonne, Bordeaux, Amsterdam, Gluckstadt au bord de l'Elbe, Copenhague. Et là, notre Gudrydur fait une rencontre capitale pour la suite de son existence.
Ça devait être une femme remarquable quand même, parce que à 36 ans, elle rencontre ce jeune étudiant de théologie, brillant. Lui, il est chargé de refaire son éducation religieuse, parce que sa chrétienté, si on peut dire, a été compromise par son long séjour en terre d'islam.
Elle s'est dégradée au contact des mahométans.
Oui, voilà, et puis il est possible. Donc, elle a toujours, selon les contes populaires islandais, elle a toujours été soupçonnée d'être restée un peu mahométane, en cachette.
Il faut dire que Gudrydur Simonar de Tyr, bien que très pieuse et prude, c'est une femme qui a une sexualité et des désirs. Elle est même présentée comme assez sensuelle, comme une grande amoureuse.
Tout à fait, même pendant sa captivité en Algérie d'ailleurs, il se passe bien certaines choses. En tout cas, une chose est certaine, c'est qu'à Copenhague, quand elle rencontre Hallgrímur Pétursson, qui va devenir le grand psalmiste islandais, le plus grand psalmiste islandais, en fait.
C'est l'auteur des psaumes de la Passion, qui, paraît-il, voilà, est un petit volume extrêmement répandu.
Oui, tout le monde a ça chez soi.
Tout le monde.
Tout le monde, ouais, tout le monde. Très souvent, on offre ça aux enfants, aux adolescents, quand ils font leur communion. Mais bon, à l'époque où elle le rencontre, il est encore jeune, il est en train d'étudier la théologie et il succombe au charme de Gudrydur, qui, elle, n'a pas de nouvelles de son mari et ne peut pas savoir s'il est vivant ou mort. Ce qui signifie qu'elle s'expose vraiment aux foudres de la justice et de la loi, puisque grosso modo, elle trompe son mari. Même si elle n'a pas vu son mari depuis 10 ans, elle trompe son mari quand même, techniquement. Oui. La fornication est interdite, quoi. Et on ne badine pas avec ces choses-là, à cette époque-là.
Et depuis Copenhague, où ce couple, disons scandaleux, passe un dernier hiver, ils vont finir par rentrer en Islande. Et finalement s'afficher, plus ou moins.
Oui, en fait, Hallgrímur, il n'a pas été vraiment ordonné prêtre, mais on lui donne quand même une petite paroisse au sud de Reykjavik, pas loin de Keflavik, hein, et il s'installe là-bas avec elle, hein.
La fin de l'histoire n'est pas racontée dans votre livre « Steinun Johannes de Tyr ». Il semblerait que, à l'égard de Gudrydur Simonar de Tyr, l'accueil de l'Islande était un peu hostile.
Já, það verður maður að segja. Það var ekki tekið vel á móti henni. Þau komu heim sem brotafólk. Hallgrímur og Guðríður komu heim
Lors de leur retour en Islande, ils ont été assez mal accueillis. On les considérait comme des délinquants. Ils sont rentrés au pays au printemps 1637, dans le sud-ouest. Et c'est là que Gudridur a donné naissance à leur enfant, non loin de l'actuel aéroport international de Keflavik, où elle avait de la famille éloignée. Ensuite, on les a traînés en justice. Et le chef d'accusation était un délit de mœurs. Mais le jugement a été nettement plus clément que ce à quoi on aurait pu s'attendre. Parce qu'entre-temps, Eyjolfur, le mari de Gudridur, était mort en mer, peu avant cette rencontre entre Gudridur et Hallgrímur.
Hann hafði druknað í hópi fjölda sjómanna. Það voru 45 sjómenn sem fórust.
La rencontre entre Hallgrímur Pétursson et Gudridur Simonard de Tyr, c'est en 1636. Et de cet instant, ils deviennent indissociables.
Bah, apparemment, oui, puisqu'ils ont passé leur vie ensemble. Et donc elle, ayant 16 ans de plus que lui, lui a survécu. Je crois qu'il est mort de la lèpre.
Il est mort avant elle, hein, surtout.
Il est mort avant elle, et elle a vécu jusqu'à l'âge de 84 ans. Et lui était très célèbre, et elle aussi. Et puis il y avait un parfum de scandale autour d'eux, à cause de la manière dont ils se sont connus. L'image qui est restée de ce couple, et qu'on voit dans les contes, ou dans des choses qui étaient racontées d'homme à homme, de bouche à oreille, comme ça. Par exemple, on dit que Gudridur, qui était restée musulmane en cachette et qui avait un idole devant laquelle elle priait en cachette. Et
un petit fétiche.
Un fétiche, voilà. Un petit fétiche. Et Hallgrímur le lui aurait pris et brûlé ou fondu, c'était peut-être en métal. Et pour se venger, Gudridur volait ses poèmes. Vous savez, hein, des histoires comme ça, ça s'invente très vite et puis ça perdure parce qu'il y a de la couleur. Alors, donc, l'image que nous avons de Gudridur est l'image transmise par ces contes populaires, hein, d'une vieille dame revêche, très, comment dire, colérique, qui était souvent pas sympathique vis-à-vis de son mari, et qui aussi était magicienne sur les bords.
Prix de la liberté, avec Torvi Tulinius, médiéviste, Thorstein Helgason, historien, Steinunn Johannes Dottir, romancière, Eric Bourri, traducteur de l'islandais, Guillaume Kalafa, historien. Extrait de L'esclave islandaise de Steinunn Johannes Dottir, traduit par Eric Bourri et lu par Elodie Hubert. Traduction de l'islandais Simon Uraldursson, traduction de l'anglais Joy Majdalani. Voix française, Phil Bouvard et Sonia Masson. Merci à Florent Gast de l'Alliance française à Reykjavik, à Émilie Maria Roy, anthropologue, et à Anaïs Kien de France Culture. Coordination Christine Bernard, attachée de production Sylvia Favre, prise de son Marie Le Peintre, mixage Éric Boisset. Gudridur Simonard de Tyr, l'Islandaise et les Ottomans, Julie Bérécy, Olivier Chaumel.
Une histoire particulière, c'est fini. Vous pouvez retrouver cette émission et tous les documentaires d'une histoire particulière sur franceculture.fr et l'appli Radio France. Un grand merci à Sylvia Favre et Anne-Lise Signoret de la Bibliothèque de Radio France.
France Culture. L'esprit d'ouverture.
Pour certains, c'est un lieu magnifique, pour d'autres, une cité maléfique.
Toufik Hakem.
Alors, c'est l'Olympe grec ou Gotham City aux portes de Paris?
On vit dans une fiction, on est dans un espace imaginaire. Et donc ça, c'est un moment très fort, c'est ce moment où l'imaginaire se mélange au réel.
Les espaces d'Abraxas de l'architecte catalan Ricardo Bofill à Noisy-le-Grand ont servi de décor pour des films comme Brazil et Hunger Games. Comment vivent les habitants d'Abraxas? Quel esprit des lieux règne dans ce décor grandiose et dystopique?
L'esprit des lieu ce dimanche à 16h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. France Culture présente les saisons Hanabi. Évadez-vous au Japon, le temps d'une saison au cinéma, avec cette année à l'honneur trois réalisatrices, dont celle de Aristocrats et The Housewife, le film de Koji Fukada, Suis-moi, je te fuis, un film d'animation féerique pour toute la famille, ou encore un documentaire poignant, multi-récompensé. Les saisons Hanabi, un film par jour pendant 7 jours, partout en France à partir du 12 janvier dans votre cinéma. Un partenariat France Culture.
Le week-end prochain, à 13h30, dans une histoire particulière, il sera question d'adoption. Mais c'est une autre histoire, car votre dimanche après-midi sur France Culture continue avec Jean Deloisy.
La matière, c'est la vie aussi.
Toutes ces idées qui viennent, il faut les attraper, comme des mouches, quand elles passent. Ce sont des idées bleues, des idées roses, des idées... qui passe.
L'art et la matière. Une émission de Jean Deloisy.
Parce qu'on veut transformer la vie. Quoi.
Ils empruntent des chemins qui n'existent pas. Ils utilisent des formes et des mots inconnus. Ils transforment ce que nous savions du monde. Ce sont les artistes. Pour vous raconter ces aventures de l'œil et de l'esprit, j'invite écrivains, historiens, commissaires d'exposition ou simplement passionnés, car l'art est leur matière. Le jeu de tarot. Le tarot apparaît à la Renaissance comme un jeu très particulier. Le désir, l'attention, le soin qui apportent les commanditaires, l'importance des artistes qui en réalisent les cartes, la complexité de la symbolique et des références littéraires ou religieuses qui s'y rattachent, le prix considérable qui sacrifient les collectionneurs font de ces premiers tarots des monuments de l'art et de la pensée de cette époque. Un engouement pour ce jeu pousse les ateliers d'artistes à se spécialiser, puis avec la gravure sur bois, très rapidement la diffusion des tarots s'accentue en Europe, de la Renaissance jusqu'au XVIIe siècle, puis décline. Une aura singulière entourera plus tard ce jeu, dû à son usage mystique ou ésotérique qui se développera plutôt à partir du XVIIIe siècle et dont les surréalistes